Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
18h18, c'est l'heure de l'invité politique. Bonsoir Pierre Licia.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, conseiller régional d'Île-de-France, conseiller en communication. Voilà ce que dit votre intitulé aujourd'hui. Alors qu'il y a quelques semaines encore, vous y croyez fort. Au final, le soir du premier tour, Valérie Pécresse fait 4,7%. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Vous êtes chaos debout?
Bah, tout le monde est un peu groggy, il ne faut pas se mentir. La candidate elle-même, on l'a d'ailleurs vu sur des images qui ont suivi.
Non, mais ça, on s'en fout des images. Elle est à quelques mètres de vous. Comment est-ce qu'elle se sent?
Alors,
qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle dit quelque chose, déjà?
Elle dit quelque chose, elle dit vote utile. Voilà, elle dit on a été victime du vote utile, parce que dans les dernières heures qui ont précédé le scrutin, il y a une rumeur, une possibilité d'un duel Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on a toute une partie de l'électorat modéré qui vote traditionnellement pour des partis de gouvernement, et l'électorat de droite en majorité qui se dit on ne peut pas se retrouver avec un duel Le Pen-Mélenchon.
Mais
et donc, le vote utile, c'est le vote Macron. Et donc, on a été victime de ça. On a été aussi victime d'une campagne, on va pas refaire le match, mais qui n'a pas vraiment...
Ce qu'on a envie de savoir, Pierre Licia, ce sont les coulisses. C'est-à-dire que, sans rentrer dans le roman photo, hein, on a juste envie de savoir, vous, Florence Portelli, Valérie Pécresse, la garde rapprochée de Valérie Pécresse, comment vous êtes? Vous vous regardez? Vous y croyez? Vous y croyez pas? Il y a des rires, il y a des larmes, il y a quelque chose, cette espèce de peau au ventre qui vous traverse le corps. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, ni rire, ni larmes, un effet de sidération. Parce que personne ne s'attendait à ce score-là. Moi, j'ai trouvé Valérie Pécresse d'une grande dignité, d'une grande...
Impassibilité?
Non, parce qu'elle a été affectée. Mais dignité face à la défaite, elle prend toute la responsabilité de ce score-là, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs dans d'autres scrutins où bien souvent les perdants tentent de se trouver toutes les excuses possibles pour se soustraire à leur responsabilité. Elle prend la responsabilité de la défaite. Elle affronte ensuite les regards, les micros, les critiques parfois, les ricanements malheureusement, avec beaucoup de...
Les ricanements de qui?
Oh, les ricanements qui ont eu lieu et qui ont eu cours pendant toute la campagne, qui ont contribué aussi à...
Mais le soir même, des ricanements?
Oula, si vous saviez.
Bah, j'aimerais bien savoir, vous êtes là pour ça.
Les réseaux sociaux, les médias, les humoristes en tout genre. Voilà, il faut faire face à ça. Il ne faut pas oublier qu'une candidate.
Le soir même,
à la
présidentielle, quand il y a les micros et les caméras qui entourent Valérie Pécresse, il y a des ricanements dans
non,
les.
Non,
pas, quand même.
Pardon, je me suis mal fait comprendre. Pas évidemment dans le staff, dans l'équipe rapprochée, où toutes nos pensées ont été tournées vers elle, parce que dans la cruauté de cette soirée-là, c'est qu'à la défaite, à l'humiliation politique, vient s'ajouter la faillite personnelle. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une candidate à la présidentielle, bien qu'elle soit soutenue par un parti politique, c'est d'abord une femme. C'est d'abord quand je dis une femme, c'est une personne dotée de sentiments. Ça n'est pas un mur, ça n'est pas un robot, et qui en plus prend un risque financier personnel et qui doit ensuite le supporter. Donc on pense à elle. Moi, je l'ai trouvée vraiment digne, beaucoup de panache finalement dans cette épreuve-là, parce que c'est une épreuve, et je crois qu'elle a eu tout le temps de se remettre de ça, qui est vraiment une épreuve. Vous savez, je pense que quand vous prenez un tel mur dans la figure, quand vous traversez une campagne aussi rude que celle-ci, franchement, vous prenez 20 ans d'école de la vie dans la figure. Et quand vous...
Malgré son expérience,
je pense que jamais personne ne peut être vraiment préparé à ça.
Et là, au conseil régional, Valérie Pécresse, comme si de rien n'était?
Ah non, pas du tout, comme si de rien, absolument pas. On a été élu il y a un an, un peu moins d'un an, sur un contrat d'engagement avec les Franciliens. Ce contrat d'engagement, on le met en œuvre, on respecte nos promesses. Vous savez, Valérie Pécresse, c'est une femme d'action, c'est une femme de fer, elle se définissait elle-même comme cela. On a eu une première séance post-élection présidentielle au Conseil régional. On a voté un bouclier de pouvoir d'achat, un bouclier social de 200 millions d'euros pour les Franciliens. Pour geler les tarifications dans les cantines, pour permettre aux Franciliens de passer au bioéthanol et de réduire leurs factures à la pompe, pour permettre aux jeunes Franciliens en insertion de pouvoir bénéficier, de pouvoir
Donc
se faire offrir
quand même de se
le permis
au travail
gratuitement,
malgré le ressenti,
parce qu'il le faut. Mais vous savez, il y a eu un mois de pour se remettre un peu dans le bain, et c'était pas trop.
Précisons une chose. Valérie Pécresse, pour les besoins, entre guillemets, de la campagne présidentielle, a rejoint les Républicains, pas vous ?
J'ai rejoint les Républicains parce qu'il fallait pouvoir voter au Congrès pour voter pour Valérie Pécresse.
Donc vous aujourd'hui, êtes dans la famille pas, des Républicains ?
Aujourd'hui, je n'ai pas réadhéré. Moi, ma famille politique, elle est, je ne crois plus trop au parti politique.
Ah, c'est un contrat sans engagement ? C'est comme les forfaits téléphoniques ?
Bah, si, l'engagement, il est jusqu'au 31 décembre, généralement.
Donc vous êtes LR ?
Donc j'ai été LR jusqu'au 31 décembre dernier. Je n'ai pas renouvelé. Ce que je veux dire par là, c'est que les Républicains, comme la droite de façon générale, c'est ma famille politique. Jamais j'ai eu de déloyauté à l'égard de ma famille politique et je continuerai à servir ma famille politique.
Mais c'est quoi la droite aujourd'hui en France ? Je voulais en venir là, en fait. Puisqu'il y a eu tout cet effondrement, je répète ce score lamentable, médiocre, terrible.
Allez-y, Pierre de Villeneuve, remuez le couteau dans la plaie.
Voilà, barrez la mention inutile. 4-7, comment est-ce qu'on reconstruit une droite en France ? Qui la représente ? Est-ce que, finalement, cette droite, elle n'est pas aspirée dans ce grand parti majoritaire aujourd'hui qui s'appelle Ensemble ?
Je vais vous répondre que non, parce qu'aujourd'hui, ce grand majoritaire, ce grand aspirateur à voix, on ne sait pas. Encore aujourd'hui, malgré la nomination du gouvernement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il souhaite vraiment pour le pays. C'est terrible à dire, d'autant plus qu'on sort d'une campagne présidentielle.
Bah, théoriquement, il suit quand même les engagements du président réélu, et donc ce sont les arguments de la campagne.
Oui, enfin, je vous rappelle quand même que jusqu'avant la nomination d'Elisabeth Borne, à Matignon, on se posait la question de savoir si on aurait un Premier ministre de gauche, de droite, vers quelle serait la coloration politique du gouvernement, pour faire quoi ? C'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que veut faire le gouvernement et le président de la République, alors même qu'on sort d'une campagne présidentielle qui aurait dû permettre d'éclaircir cela.
Il y a quelques axes qui sont dessinés, ne serait-ce que la retraite à 65 ans qui est une réforme que va devoir...
Mais très bon exemple, ou plutôt très mauvais exemple, la retraite à 65 ans. Le président de la République a annoncé la retraite à 65 ans, puis finalement il a dit qu'on allait pouvoir discuter, puis finalement il a dit plutôt 64 ans, puis finalement il a dit...
Enfin, on est à la marge,
ce sera pas une priorité.
65, non, mais pas non plus la réalité, sur un gap de 5 ans.
La réalité, c'est qu'en 2017, il nous avait dit la même chose. Et que en 5 ans, rien ne s'est passé. C'est
ça
le premier président de la République.
Ça veut dire qu'il ne va pas la faire, la réforme.
Ça veut dire que Emmanuel Macron.
Vous savez bien que si.
Ça veut dire qu'Emmanuel Macron, en tout cas, il ne l'a pas faite.
Non, mais attendez, il vient d'être réélu.
Il avait 5 ans, je veux dire. Il vient d'être réélu.
Oui.
Réélu, ce qui présuppose quand même qu'il a été élu pendant 5 ans. Cette réforme des retraites qui était présentée
comme... Vous pensez qu'il va prendre le risque d'annoncer la réforme de la retraite à 65 ans et qu'il ne va pas la faire ? C'est ce que vous dites ce soir.
C'est ce qu'il a fait en 2017.
Donc
en 2017, il a annoncé la réforme des retraites comme étant une réforme phare, cardinale de son quinquennat, qu'il n'a pas
Je note
mise
votre
en
doute
œuvre.
Ou votre crainte.
Mais j'ai une crainte parce que Emmanuel Macron n'est pas réformateur. Vous me posiez la question, c'est quoi la droite aujourd'hui ?
Ben,
j'y viens. La droite aujourd'hui, c'est une droite d'abord qui réforme. C'est une droite réformatrice. Sous Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, le nombre de réformes qui a eu lieu, et nous avons été vivement critiqués pour cela, mais au moins il y avait des réformes.
Vous parlez de Nicolas Sarkozy en bien.
Je parle de Nicolas Sarkozy, c'est le dernier président de droite que nous avons connu.
Après la relation qu'il a eue compliquée avec Valérie Pécresse, encore dernièrement jusqu'au chèque qu'il lui a donné.
Je dissocie bien les deux. Le mandat de Nicolas Sarkozy et les réalisations avec son gouvernement, dont Valérie Pécresse d'ailleurs à l'époque, qui s'est montrée, puisqu'elle était ministre, d'une solidarité à l'égard du président de la République et du gouvernement sans faille. Mais tout ça pour vous dire que c'est la dernière expérience d'un président de droite avec un gouvernement de droite que nous avons eu. Donc la droite, elle est réformatrice. La droite, elle est ferme. Et intransigeante sur les questions régaliennes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, ça n'est pas le cas. Il ne me semble pas que ça soit le cas. En tout cas, on ne l'a pas vu depuis 5 ans. Elle est aussi libérale, pour libérer les énergies, libérer la liberté entrepreneuriale, la liberté créative. On ne l'a pas vu non plus.
Comment on s'y prend ? On reforme un parti, sachant que les LR existent jusqu'à quand ? Est-ce qu'on met une grande figure à la tête de ce parti, qu'on appellera peut-être d'une autre façon ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Laurent, j'entends parler du retour de Laurent Wauquiez, d'autres personnalités, de grandes figures de droite ?
Comme je viens de vous le dire, je ne suis pas membre des Républicains, je laisse le soin aux Républicains de reprendre.
Non, mais vous êtes membre de cette famille de droite, vous nous l'avez dit.
Moi, je souhaite vraiment...
Qu'elles s'appellent les Républicains ou autres.
Vous savez, il y a une grande critique, difficulté qui a été faite aux Républicains, puis aussi pendant la campagne, qui était de dire, mais finalement, entre la ligne Barnier et entre la ligne Ciotti, on ne comprend plus. Donc moi, j'aimerais que cette grande famille de la droite, elle puisse être, se clarifier sur le fond. Comme je vous le disais, réformatrice, intransigeante sur le régalien, mais aussi avec un fort penchant social et environnemental.
C'est le « en même temps » à droite.
C'est pas le « en même temps ». Enfin, voyez, on peut être libéral sur les questions économiques, progressiste sur les questions sociétales, et intransigeant et ferme sur les questions régaliennes.
C'est parce que
ça a toujours été... Bah non, bien sûr que non. Enfin, à quel moment est-ce que le président de la République a été intransigeant sur les questions de sécurité, sur les questions de communautarisme? L'insécurité a explosé sous son quinquennat. On peut pas avoir d'un côté Gérald Darmanin qui sort les muscles à l'intérieur et de l'autre côté Monsieur Dupond-Moretti à la justice qui trouve toutes les excuses possibles aux délinquants. Enfin, je veux dire, à un moment, l'autorité, ça peut pas être de la posture et ça ne peut pas être du en même temps. On peut pas être dans le en même temps sur les questions de sécurité, sur les questions régaliennes, sur les questions d'immigration, sur les questions de communautarisme. Ça ne marche pas, en fait.
Le gouvernement, à peine nommé, arrive avec un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est la moindre des choses. Mais le gouvernement, à peine nommé, devrait arriver non pas avec un texte de loi sur le pouvoir d'achat, mais avec une batterie de textes.
C'est le premier annoncé, on va peut-être en avoir d'autres.
Oui, mais encore une fois, c'est dans les 6 mois qu'il faut que le gouvernement fasse les grandes réformes.
Et les fameux 100 jours.
Donc, en tout cas, vous bénéficiez de la légitimité populaire. Mm. Donc il faut en profiter. La réforme des retraites, elle devrait être annoncée maintenant. Pour l'instant, la réforme des retraites, c'est quoi ? Est-ce qu'il va y avoir les consultations qui vont durer
donc
quoi ?
Vous pressez la majorité de se presser, en l'occurrence.
Bah oui, parce qu'on a perdu déjà 5 ans. Il serait peut-être temps de ne pas en perdre 5 de plus.
Parce que c'est d'actualité, je vous pose la question, Pierre Licia. Damien Abad, je sais que c'est la famille DLR et que vous étiez à Libre. Mais vous avez quand même été une partie du temps à l'air. Est-ce que vous saviez ?
Malheureusement, je ne savais pas. Ce qui me frappe, c'est que il semblerait que depuis lundi dernier, depuis la nomination de la nouvelle première ministre, tout le monde savait ou tout le monde était tenu informé, en tout cas dans les appareils politiques. Et malgré ça, malgré ces signalements, je trouve ça assez ahurissant. Indépendamment du fond, parce que je serais bien incapable de juger sur le fond. Je ne connais pas spécialement Damien Abad, je n'en sais strictement rien des accusations, même si j'en ai pris connaissance, j'ai lu, comme beaucoup, l'article de Mediapart, qui est quand même assez saisissant.
Dans quel sens ?
Dans le sens où il instaure un profond malaise à la lecture de l'article. Mais encore une fois, je suis bien incapable de juger, et ça n'est pas mon rôle, sur la culpabilité ou non de Damien Abad. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous êtes président de la République...
Mais vous n'êtes pas comme Aurélien Pradier, par exemple, qui prend la parole dans cet article de Mediapart, d'autres qui prennent la parole sous couvert d'anonymat, qui disaient, voilà...
Ils étaient camarades de parti, camarades à l'Assemblée, donc j'imagine qu'ils avaient des relations, des rapports...
Ouais, mais je vous pose la question de manière totalement candide.
Malheureusement, non. Ce qui me frappe, c'est que le président de la République et la première ministre, sachant ces signalements, et maintenu leur décision de nommer M. Abad au gouvernement. Indépendamment de la culpabilité ou non de Damien Abad, ça fait peser sur l'action du gouvernement un risque politique. Et ça risque d'entraver l'action politique du gouvernement. À aucun moment, on peut considérer que ces accusations sont à balayer d'un revers de main. À tout du moins, le gouvernement ou le Premier ministre ou la Première ministre auraient très bien pu dire... On sursoit à statuer, c'est-à-dire qu'on attend, on lève les doutes possibles, on mène les enquêtes pour ensuite intégrer ou non M. Abad dans le gouvernement. Mais je trouve ça assez risqué pour le gouvernement, pour ne pas dire imprudent, d'avoir pris cette décision-là de nommer Damien Abad, tout en sachant, tout en ayant connaissance de ces signalements. Vous savez, je vais vous donner un exemple, anecdote très courte. À l'occasion des élections régionales en Île-de-France, je faisais partie de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse et nous recevons de façon via les réseaux sociaux un premier message nous indiquant pointant des accusations graves sur un colistier qui figurait sur les listes de Valérie Pécresse aux élections régionales. On reçoit ces premiers messages autour de 10h du matin. À 14h30, le candidat en question est convoqué, amené à s'expliquer. Alors, il se trouve qu'il y avait déjà une plainte qui était déposée, qui ne présageait pas non plus de la culpabilité. Mais, si vous voulez, 4 heures après, il ne faisait plus partie des listes. Parce que... Non pas parce qu'il est coupable, ça, je n'en sais rien. Mm. Mais parce que ça, c'est de nature à porter atteinte à la crédibilité, à la légitimité et à l'action de la liste que nous conduisions, puis de la mandature que nous allions exercer, et en tout cas de l'action du gouvernement pour Damien Abad. C'est en ça que je ne comprends pas. En plus, dans un contexte où, il y a quelques jours, des candidats investis l'AREM aux législatives ont dû renoncer à leur investiture pour des questions similaires de plaintes où M. Guérini a trouvé ça presque tout à fait normal qu'un candidat puisse être investi alors qu'il avait quand même causé 14 jours d'ITT à sa compagne. Il y a quand même un passif. Il y a quand même un passif dans cette équipe gouvernementale et je suis assez sidéré de voir que malgré cela, on continue à penser que on continue à faire confiance à celui qui fait partie du même cercle, voyez-vous.
Merci beaucoup, Pierre Licia, d'avoir été l'invité politique d'Europe Soir. Dans un instant, à 18h33 sur Europe 1, ça fait débat entre Agnès Evren, porte-parole LR, et Philippe Doucet, porte-parole PS. À tout de suite.
Europe Soir Weekend.
Pierre de Villeneuve.
Et on continue notre session d'information Europe Soir jusqu'à 20h avec Ça fait débat, votre débat politique de 18h30 à 19h avec Agnès Evren. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole des Républicains. Bonsoir à Philippe Doucet.
Bonsoir.
Porte-parole du Parti Socialiste. On vient d'en parler avec Pierre Licia. Le cas Damien Abad, à peine formé, le ministre des Solidarités se retrouve accusé via un article de Mediapart de violence sexuelle. Agnès Evren, question simple, est-ce que vous connaissez bien Damien Abad ?
Oui, je le connais bien. On
vous
a fait d'ailleurs la campagne de Valérie Pécresse ensemble, mais j'ai découvert, comme vous tous, l'article de Mediapart, que j'ignorais complètement.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, je trouve ça violent, tout simplement. Je trouve ça triste. Et je pense que il faut évidemment que la lumière soit faite, tout simplement, mais c'est difficile de porter des jugements sans savoir exactement ce qu'il en est réellement, parce que je crois savoir, pour avoir lu l'article, qu'il avait démenti toutes ces allégations. Donc évidemment, il faut que la lumière soit faite.
Philippe Doucet, vous avez appris également cet article de Mediapart.
Oui, je trouve que c'est un article qui est lourd, quoi. Parce que les faits, c'est un article très approfondi de la rédaction de Mediapart.
Avec des témoignages.
Avec beaucoup de témoignages, avec deux femmes qui témoignent.
Des membres
avec,
des Républicains également.
Mais deux témoignages très intimes, très détaillés, qui vont très loin. Donc, et puis, effectivement, avec beaucoup de recoupements chez un certain nombre de membres des Républicains, sur d'autres élus et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre comme ça sur le côté. Et puis, je pense que faut être à l'écoute de la parole des femmes aujourd'hui, parce que pendant trop longtemps, on a mis tout ça sous le tapis, dans un tiroir, fermé à double clé, quoi. Donc,
mais est-ce qu'on n'a pas mis ça, j'allais dire, je reprends vos mots, sous le tapis ou dans un tiroir, alors qu'effectivement ce gouvernement vient de se former, on a pris du temps pour la formation de ce gouvernement. Juste pour votre information, à l'instant, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et son collègue de la Justice, Éric Dupond-Moretti, en déplacement, n'ont pas souhaité, alors qu'ils étaient assaillis par les caméras et les micros, commenter cette information, alors qu'Elisabeth Borne a dit que si de nouvelles plaintes venaient, si la justice venait à être saisie, eh bien, elle prendrait toutes les responsabilités. C'est ce que dit le Premier ministre. Est-ce que ça n'a pas été, j'allais dire, mis un peu sous le tapis, un peu vite là.
J'ai l'impression, parce que c'est vrai que beaucoup reprochaient à ce gouvernement de prendre beaucoup de temps pour être composé. Alors, nous a dit, mais oui, mais il y a les équilibres politiques, il y a aussi les vérifications qui doivent être faites auprès de la Haute Autorité. Comment se fait-il que tous les candidats pour devenir ministre ont été passés au crible et que, du point de vue de la morale, rien n'ait été fait? C'est quand même étonnant que la Première ministre découvre, les ministres découvrent et disent qu'ils ont lu, comme nous tous, l'article de Mediapart. Donc, peut-être de ce point de vue-là, en effet, il y a eu un manquement assez grave.
Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, assure n'avoir rien reçu. Je lis l'article de Mediapart. Il a, après les questions de Mediapart, porté ses faits à la connaissance du procureur, conseille la victime de porter plainte immédiatement. De son côté, Stanislas Guérini, délégué général d'En Marche, vient aussi d'être nommé ministre. Il fait savoir qu'il n'avait pas relevé sa boîte mail et assure donc avoir découvert le mail de signalement samedi matin à la suite des questions de Mediapart.
C'est quand même surprenant parce que respectivement, ils disent tous qu'ils n'ont pas reçu les mails alors que l'Observatoire a fait son travail d'alerter le gouvernement.
Il y a deux choses. Un, je pense que sur la question de la vérification pour les ministres, ça concernait jusqu'à présent beaucoup les situations fiscales, sociales, toutes ces situations-là. Je pense que jusqu'à présent, dans le scan des ministres, il n'y avait pas jusqu'à présent...
Oui, mais il y avait les mails. Les mails ont été alertés. On était là pour alerter. C'est ça dont je parle, pardonnez-moi.
Sur la situation comment dire, en termes de mœurs, même si le mot est peut-être pas le plus adapté. Bon, par ailleurs, quand même, jusqu'à il y a 8 jours, 6 jours, 5 jours, Damien Abad était président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, quoi. Hein, donc, l'antériorité de cette situation, j'ai lu, je crois, une interview de M. Aurélien Pradier.
Parle dans l'article de Mediapart.
Qui parle dans l'article de Mediapart, effectivement, et qui dit, bon, il y avait quand même...
il s'est expliqué avec lui dans un couloir.
Voilà, ouais. Bon, il y avait un historique par rapport à ça. Ouais. Bon, donc, moi, je pense que avec le phénomène MeToo, il y a une parole qui s'est libérée, il n'y aura pas de marche arrière et c'est tant mieux. Et ça veut dire aussi que, en règle générale, mais ça vaut pour les ministres, mais je pense que ça vaudra aussi demain pour les entreprises, ce type de comportement, s'il était confirmé, sont devenus, et c'est très bien, totalement inacceptables. Et ça veut dire qu'il faut que, y compris chaque organisation politique, le fasse.
Aurélien Pradier, secrétaire général DLR, assure avoir coincé, entre guillemets, Damien Abad en novembre 2020 dans les couloirs de l'Assemblée nationale en lui disant qu'il entendait parler de comportements inappropriés qu'il aurait eu avec des collaboratrices. Il n'était pas du tout surpris. Il s'est agacé en me disant qu'il en avait marre d'entendre parler de cela. Donc, je n'étais pas le premier à le faire. Il m'a dit que ce n'était pas vrai, qu'il s'était excusé. Je lui ai dit, est-ce que ce n'est pas vrai ou est-ce que tu t'es excusé parce que ce n'est pas la même chose? Et la discussion s'est arrêtée là. Ce que dit Philippe Doucet, Agnès Evren, oui, il est aujourd'hui ministre des Solidarités, mais il a quand même eu des grands postes précédemment aux Républicains.
La preuve, c'est qu'il était jusqu'à la veille du dépôt des candidatures président du groupe. Voyez,
ça ne fait pas longtemps, ça.
Ça ne fait pas longtemps, et c'est vrai que les députés, d'ailleurs, se sont sentis trahis lorsque, dès le lendemain de la défaite, et à 3 semaines des législatives quand même, rejoindre le camp d'en face, c'est quand même en termes de vertu, de loyauté, de sincérité, assez...
Mais là, on parle d'un autre sujet.
Assez difficile. Oui, mais ce que je veux dire, parce qu'on parlait de la présidence du groupe, c'est quand même cohérent de dire que de ce point de vue-là, il a manqué de loyauté vis-à-vis des députés qui lui ont fait confiance pendant 3 ans. Quand
là, on parle
Deuxièmement, de deux femmes, Aurélien Pradier. Ouais. Non, mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement.
Je vous laisse.
Puisque vous rappeliez ses fonctions, donc j'explique.
Ouais.
Et deuxièmement, Aurélien Pradier, justement, a eu, l'honnêteté de lui dire qu'il était au courant de cette rumeur qui circulait visiblement. Mais est-ce qu'un groupe politique a les moyens juridiques de mener une enquête? Ça, je ne pense pas. En revanche, la réponse était très claire de Damien Abad. Il avait l'air de dire que c'était faux et qu'il démentait ces accusations. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous? Moi, ce que je regrette, c'est qu'en effet, ce gouvernement qui a été alerté par l'Observatoire n'ait pas essayé d'approfondir, justement, cette alerte qui avait été faite auprès du gouvernement qui veut toujours laver plus blanc que le blanc.
Philippe Doucet.
Alors, le Parti Socialiste est en rien exemplaire par rapport à tout ça, mais comme on a eu des problèmes au sein du mouvement des jeunes socialistes au dernier congrès, on a décidé unanimement de mettre en place une commission interne d'instance d'appel, de contrôle interne, comme vous pouvez avoir dans une entreprise, dans une association, un organisme interne la parole des femmes puisse être écoutée. Et je pense qu'aujourd'hui, toute organisation humaine, et un groupe politique à l'Assemblée nationale en fait partie, doit avoir ce type d'instance. Parce qu'autrement, vous voyez, ça, on en parle dans les couloirs, ça se sait, il y a une espèce de rumeur.
La commission a la possibilité de mener une enquête
elle n'a pas obligatoirement la commission de mener une enquête, mais en attendant, c'est un lieu de prise de parole,
De recoupement d'informations,
et où après, la direction politique d'une organisation, en l'occurrence la mienne pour ce qu'on vient d'évoquer, eh bien, peut elle-même décider soit de convoquer la personne, soit d'interpeller directement la justice pour qu'elle fasse son travail. Parce que nous, on a eu ça dans le cas de, vous voyez, pour bien balayer devant notre porte tout à chacun, on a eu ça, le problème, moi j'ai découvert ça, je crois que c'est un article dans Libération sur ce qui se passait au mouvement des jeunes socialistes. Voilà, donc des comportements qui sont inacceptables. Je pense qu'aujourd'hui, chaque organisation doit s'équiper, si je puis dire, de ce type d'institution.
Restons-en là, en tout cas, ce soir, pour l'affaire Damien Abad, dont on entendra parler, dont on parlera ici, quand il y aura de nouvelles informations sur ce sujet dans les jours prochains. Ce gouvernement vient d'être formé, et le premier le premier projet de loi, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi sur le pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous avez vu cette chose? Est-ce que c'est alerte, il y a les élections législatives qui arrivent et il faut qu'on fasse vite un projet qui concerne la majorité des gens avant même le grand trend de ce gouvernement, si on le comprend bien, c'est-à-dire la question écologique avant tout, parce qu'il y a des objectifs mondiaux d'ici 2050 et avant 2050, d'ici 2035. Est-ce que c'est un projet entre guillemets à la va-vite ou est-ce que c'est un projet concret pour les Français, Agnès Evren?
Ah non, c'est pas un projet à la va-vite. Pour le coup, ça fait partie, à mes yeux, des angles morts du précédent quinquennat. Et que le pouvoir d'achat est la priorité des priorités. Et donc, évidemment, nous, on va porter dans cette campagne pour les législatives les grandes thématiques de la droite, que sont le mérite, le travail, l'école, la maîtrise des comptes publics. Et évidemment, le pouvoir d'achat en fait partie. Et nous sommes force de proposition. Nous espérons très clairement, et d'ailleurs, c'est les mesures que nous avions proposées dans le cadre de ce projet pour la campagne, c'est de ramener le prix à la pompe à 1,50 € en baissant les taxes sur l'énergie, la TICPE et la TVA, en défiscalisant les heures supples. Par exemple. Il y a beaucoup de mesures que nous avons proposées. J'ose espérer, c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir un groupe indépendant à l'Assemblée nationale pour continuer d'être un aiguillon vis-à-vis de ce gouvernement. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas tant l'avenir de la droite qui se joue, c'est aussi l'avenir même du débat démocratique. Parce que si on se retrouve dans une polarisation avec d'un côté uniquement les progressistes, on va dire le gouvernement d'Emmanuel Macron, et d'un autre les populistes d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, alors ça veut dire que la droite républicaine disparaît du paysage politique et que demain, si on n'aime pas Macron, eh bien vous n'aurez le choix qu'entre Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que
Si les électeurs n'ont pas choisi la droite républicaine, c'est que devait avoir une raison.
Bien sûr. Mais vous savez, quand on a fait 4,5, évidemment, on a le devoir d'avoir une lucidité et se dire qu'aujourd'hui, on n'imprime pas, on n'est pas compris par les Français, qu'on a sans doute un problème de ligne idéologique. Et c'est évident qu'après les élections législatives, on va tout refonder du sol au plafond. Mais moi, je reste absolument persuadée, et je le dis dans l'intérêt du débat démocratique, que si on se retrouve encore une fois dans un face-à-face entre d'un côté le progressisme et le nationalisme, entre guillemets, les populistes, alors c'est dangereux pour la démocratie.
Philippe Doucet.
Bien. Alors peut-être déjà, pour le PS, oui, si je puis dire. Bon.
Vous vous reprenez.
non, mais
le
parce
PS
que
existe encore à travers Philippe Doucet.
Oui, oui.
Vous préférez que je vous dise que vous êtes dans NUP ?
Non, le PS me va très bien. Non, déjà, ce que je voulais rappeler, peut-être, c'est que déjà, l'histoire d'Amir Abad, je ne sais pas comment il va survivre. Hein. Donc je pense déjà qu'au-delà des aspects juridiques, je pense que la dynamique aujourd'hui sociétale par rapport à ce type de phénomène, je ne vois pas comment un ministre y tient longtemps face à ce type de vent debout. Donc ça, je pense qu'il y a déjà une première crise ministérielle qui va arriver, à mon avis, très vite. Deuxième aspect, sur le pouvoir d'achat. Effectivement, ça a été, entre les propositions d'à peu près tous les candidats, le pouvoir d'achat...
Sujet numéro un.
Et Emmanuel Macron, avant d'être sur l'écologie 2050, il a juste un sujet, c'est de réussir à gagner les élections législatives. Et c'est pas fait. Et donc, comme c'est pas fait, il se dit, faut que je cours partout.
Il y a qu'un faucon.
Il faut je colmater les trous dans le dispositif pour être dedans. Il a un enjeu sur les élections législatives. Et en plus, ce qui vient de se passer ici, plus d'autres candidatures un peu particulières, je crois que M. Perra, enfin, il y a un certain nombre de candidats de La République En Marche qui ont quand même quelques pédigrés un peu particuliers, fait que, vous voyez, Elisabeth Borne, aujourd'hui, dans sa campagne, elle est interpellée sur la question d'Amir Abad. Là, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice sont interpellés sur cette question-là. Et donc, effectivement, sur la question du pouvoir d'achat, ils ne répondent pas. C'est donc bien qu'ils sont quand même bien coincés dans l'angle. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'à haut niveau, l'arbitrage n'a pas été fait s'il lâchait Damien Abad tout de suite ou pas. C'est quand même ça le sujet. Et puis, du coup, ça augure pas bien pour la campagne initiative. Et deuxièmement, sur la question du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron, vu l'évolution des prix, pas simplement de l'essence, mais du gaz, enfin tous les produits alimentaires et tout, s'il n'est pas dans l'action autour de ça, je pense qu'il peut perdre beaucoup de points dans cette campagne législative, qui est quand même un peu atone, qui est quand même un peu particulière, une espèce de faux plat un peu particulier pour beaucoup d'organisations politiques, à commencer par La République En Marche.
Il faut dire aussi que le gouvernement a beaucoup déçu, parce qu'on nous promettait une révolution, et puis finalement, la montagne a accouché d'une souris, on prend les mêmes et on recommence.
Ça vous a choqué, ça ?
Moi, oui, parce qu'on attendait...
Qu'est-ce que vous prenez alors, l'argument qui dit, autant garder des gens compétents qui savaient faire le boulot ?
Oui, mais alors dans ces cas-là, on ne dit pas que ça va être.
Le maire, ça va faire le job. Mais non, mais pour
c'est pas seulement ça. Non, mais vous savez, on est souvent dans la communication. Souvent, la communication se substitue à l'action. Et on a le sentiment, voulez, en écoutant Emmanuel Macron, qu'il allait tout changer du sol au plafond, un nouveau mandat, des nouveaux ministres, un nouveau gouvernement, une femme première ministre. Et donc, évidemment, on est resté un peu sur notre faim parce qu'on a l'impression que finalement, à tous les postes clés, on a exactement les mêmes ministres. À la limite, s'ils sont compétents, tant mieux. Mais nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est quelle politique ils vont mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur les retraites? Est-ce qu'enfin les retraites vont être indexées sur l'inflation? Est-ce qu'enfin on va refuser le principe d'avoir des retraites, des pensions qui sont inférieures au SMIC, par exemple? Qu'est-ce qu'on va faire sur les questions régaliennes? Pierre Lissia le disait tout à l'heure, c'est le talon d'Achille d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc nous, on a des propositions également sur ce sujet-là, avec le zéro impunité, la possibilité d'exécuter 100% des peines. Mais attendez,
je pense pas que les candidats et les républicains vont beaucoup survivre dans cette séquence-là, parce que vous-même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je vous ai entendu sur une autre antenne l'évoquer aussi. Le fond de l'affaire, c'est que la bataille, elle se joue à trois. La réalité, elle se joue entre la NUP, En Marche et Marine Le Pen. Le reste, peut-être même que le 16e arrondissement, vous n'allez peut-être même pas réussir à le sauver.
Imaginez, on a un excellent candidat, la personne de Francis Spinner. Ouais, on a un excellent candidat.
Je ne suis pas sûr qu'il va gagner à la fin. Donc, si vous perdez le 16e arrondissement, c'est la fin des ricos quand même pour la droite.
Vous oubliez quelque chose, c'est que nous, à droite, nous sommes la première force territoriale. Nous avons des députés sortants extrêmement ancrés et enracinés dans leur territoire. Et je peux vous assurer que j'en ai beaucoup au téléphone, qui ont un bilan de députés sortants. Et la politique, c'est aussi, à un moment donné, une implantation, une crédibilité, le sérieux des candidatures.
Je partage ça en termes de philosophie politique. Le fait est que aujourd'hui, les Français ont parfaitement compris que c'est de savoir si vous voulez donner une majorité au président de la République ou si vous voulez pas leur donner une majorité.
Oui, mais pas
je
dans
crois
tous les
en vertu de l'ancrage dans les profondément. Je suis pas sûr d'être pas toujours suivi par les électrices
dans
et les électeurs.
Dans les métropoles, peut-être, mais je vous assure que dans les communes rurales, on a d'excellents candidats qui ont fait le job, qui sont face à des inconnus.
Je savais pas que Paris 16e était une commune rurale.
Non, mais Francis Pirac,
avec votre 16e bashing, là, vous avez un polo Lacoste, écoutez, vous l'avez acheté dans le 16e.
Ce qui m'amuse, je voudrais quand même terminer là-dessus.
En banlieue, Lacoste fait un carton.
Bah voilà. Ce qui m'amuse, c'est que...
Monsieur Devineau, vous devriez le savoir. Lacoste fait un carton en banlieue.
Monsieur Doucet nous donne des leçons à la droite.
Quand on voit le PS qui a fait 1%
je donne
jamais de
leçons. Il me répond en pendant, il a raison.
Et qui est obligé de se raccrocher à l'extrême-gauche pour continuer d'exister. Et quand on voit l'affaire du Burkini, honnêtement, pour moi, c'est un scandale absolu. C'est une régression. Comment est-ce que la gauche peut accepter d'avoir perdu à ce point-là sa boussole républicaine
pour accepter l'asservissement
des formes? Vous faites partie maintenant de la
donc,
mouvement,
il n'est pas chez moi. Bon, je crois
vous
pas
avez
que
accepté
ça. Statif, monsieur
donc
Piolle.
C'est facile de stigmatiser
Burkini,
la droite.
On ne va pas parler d'Éric Piolle parce que vous n'êtes pas concerné. En effet, vous n'êtes pas dans la NUP. Les ministres, on parlait justement des ministres et plutôt des candidats qui allaient gagner ou pas les législatives. On a une information qui apparemment provient de l'Élysée, qui n'a pas beaucoup fuité, juste dans quelques médias. Les ministres qui auront perdu aux législatives devront démissionner.
Bah, c'est une vieille tradition.
Philippe Doucet.
C'est François Mitterrand il y avait cet engagement depuis très longtemps. François Mitterrand l'a toujours appliqué. François Hollande ne l'a pas fait pour Najat Vallaud-Belkacem puisqu'elle n'a pas été candidate en 2012. Mais quand vous êtes nommé ministre, que vous présentez une élection, que vous ne gagnez pas, vous partez avec un handicap en termes de légitimité. Pour ça qu'un certain nombre de ministres ne vont pas aux élections législatives, parce que ça leur évite de prendre le risque. Mais à une époque, tout ministre devait être passé par le suffrage universel.
C'est un blanc-seing nécessaire.
C'est pas un blanc-seing, mais c'est l'onction du peuple.
Les plus importants ont une implantation locale. On a trop fait d'ailleurs le procès à certains ministres d'être totalement hors sol et déconnectés de la réalité du terrain, qu'aujourd'hui, on a besoin, et c'est bien normal, d'avoir des ministres qui ont une légitimité électorale. Et pour avoir un poids politique, aujourd'hui, évidemment, ça renforce.
Donc c'est une bonne information.
Très bien, et ça paraît tout à fait logique.
D'ailleurs, pensez que Mme Elisabeth Borne, candidate, alors qu'elle, jusqu'à présent, elle n'a jamais été élue dans le Calvados. Donc,
Il y a un ministre dont on parle beaucoup, c'est Pape Diaye. C'est une fausse, c'est une bonne ou c'est une mauvaise polémique?
Alors moi, je ne vais pas faire de procès d'intention. Moi, je juge les ministres sur leur position politique et leur action politique. En revanche, en effet, il a eu des prises de position qui sont un peu surprenantes, notamment avec cette culture woke. Donc, ça peut surprendre. Et c'est pour ça que moi, ce que je disais tout à l'heure sur la gauche, qui m'inquiète, c'est que cette gauche, aujourd'hui, on a une gauche qui est coupée en deux. Une gauche qui, évidemment, comme vous, Monsieur Doucet, reste attachée aux valeurs universelles, et une gauche qui s'est laissée totalement absorber, finalement, par l'extrême gauche, et qui dérive de plus en plus vers le racialisme et l'indigénisme et le communautarisme. Je dis, encore une fois, je ne veux pas lui faire vous de procès d'attention, ouais. J'attends son action politique. Ce serait ouais. trop facile de juger alors qu'il n'a encore rien
Il
fait.
Il s'était opposé au bicentenaire de Napoléon, hein.
Voilà, donc je trouve que c'est pour ça que je trouve que ce gouvernement, au-delà du fait que la montagne a accouché d'une souris, il n'y a pas un message très lisible et très fort qui est lu dans cette incarnation.
Pour être honnête, je trouve que Papendiaï, c'est la seule bonne nouvelle de ce gouvernement. Parce que.
Est-ce que c'est quelqu'un de compétent? Parce que c'est un historien?
Je pense que c'est un historien. Oui. Son histoire sur les Noirs aux États-Unis ou sur la condition des Noirs en France, il y a quand même. Est tout à fait intéressant. Et derrière, c'est aussi. Même si je suis un universaliste farouche, un républicain universaliste farouche, il faut aussi entendre les questions que pose le traitement d'un certain nombre de minorités. Il avait évoqué les violences policières il y a un an, je crois, sur la France Inter. Donc je pense qu'il ne faut pas... L'universalisme ne doit pas empêcher d'examiner la manière dont nous avons traité, nous, l'esclavage,
oui, mais quand
etc.
Il compare,
etc.
La France aux États-Unis, moi, ça m'inquiète un peu parce qu'on n'a pas du tout la même histoire ségrégationniste.
Merci beaucoup, Agnès Evren. Merci beaucoup à Philippe Doucet voilà, pour ce débat. On se retrouve dans un instant pour le journal de 19h et ensuite on parlera de la sécheresse en France. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Et pendant toute la quinzaine de Roland-Garros, un petit mouvement encore sur Europe Soir avec tout à l'heure à partir de 8h moins le quart, l'œil de Cédric Pioline sur la journée à Roland-Garros. Service Pioline, on le rejoindra tout à l'heure à Roland avec Axel Metz. Ce qui fait que pas d'invité pendant cette quinzaine à 19h15, mais nous avons un débat d'une demi-heure sur les sujets de société, les sujets qui vous angoissent, les sujets qui vous intéressent. Vos angoisses, vos craintes, peut-être des choses à découvrir. Aujourd'hui, on va faire un grand plan sur cette sécheresse. Vous avez peut-être lu quelques articles des journaux, justement, de cette inquiétude, notamment des agriculteurs, des viticulteurs. Ils sont là ce soir, justement, pour témoigner, pour vous parler, pour vous donner le point de vue sur ces grandes températures déjà qui ont eu lieu la semaine dernière. Je salue Claude Petit-Guyot. Bonsoir. Vous êtes éleveur de charolaises et producteur, en tout cas éleveur à Mont-de-Vaudrey dans le Jura. On est ravis d'être dans le Jura, par votre intermédiaire. Quel beau pays ce Jura que je connais bien et que je traverse souvent. Jean-Marie Fabre, bonsoir. Viticulteur au domaine de Fitou dans l'Aude. Vous êtes président des Vignerons indépendants de France. Vous nous parlerez justement de cette... question particulière du vin et on sait justement et aussi on est des amateurs de vin dans cette gastronomie française ô combien le soleil et la pluie sont importants pour la qualité des jus. Bonsoir à Jean-Michel Soubérou, directeur adjoint scientifique de la climatologie à Météo France. Jean-Michel Soubérou, bonsoir.
Oui, bonsoir Pierre.
D'abord, un point de vue avec vous. On a eu des températures extrêmement chaudes la semaine dernière. On vient d'entendre Valérie Darmon donner son bulletin météo. On en rigolait, mais il n'y a rien de drôle. Hein. C'est chaud-froid comme ça, avec des températures qui vont et qui viennent. Est-ce que ça va continuer? C'est très difficile de faire des prévisions sur l'été, mais comment ça va se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent?
Alors, d'abord, donc aujourd'hui, la France a encore connu des températures très élevées, du moins dans la moitié sud. Il y a de nombreux records mensuels qui ont été battus aujourd'hui. Il y a eu des 36 degrés en Nouvelle-Aquitaine, sur le Massif central, et beaucoup aussi sur dans la région des Alpes du Sud. Donc la chaleur était encore là, mais c'était le dernier jour, effectivement. Donc au cours des trois prochains jours, les températures vont se rapprocher des normales de saison. Car il y avait dépassé les 30 degrés au mois de mai, c'est pas du tout normal en France. Ouais. Mais par contre, donc au-delà, il semble qu'on revienne de nouveau sur des températures qui restent au-dessus des normales de saison. Donc on n'est peut-être pas complètement sorti de cette période chaude, même si on va pouvoir profiter d'une accalmie pendant quelques jours cette semaine.
Jean-Michel Soubérou, vous qui analysez les fluctuations des températures depuis de nombreuses années à Météo France, est-ce qu'il y a un changement récent? Est-ce qu'il y a ces vagues, ces températures extrêmes qui chutent puis qui remontent en un espace-temps beaucoup plus réduit? Est-ce que c'est très différent par rapport aux années précédentes?
Ce que l'on observe de plus en plus régulièrement, ce sont ces épisodes de chaleur intense. qui était moins présent dans le climat passé. Et donc voilà, donc l'événement que l'on vient de connaître est tout à fait exceptionnel pour un mois de mai en France. Il n'a pas concerné que la France d'ailleurs, hein, donc il y avait aussi nos voisins espagnols et puis également le Maroc qui a connu des records de température. Par contre, donc, c'est surtout ça, ces éléments-là, c'est que donc on a ces bouffées chaudes qui viennent là donc au cœur de nos saisons et qui posent beaucoup de problèmes, je pense, pour l'agriculture puisque c'est notre sujet aujourd'hui et pour donc la nature en général.
À quel moment, et ça sera ma dernière question avant justement de donner, vous avez raison, la parole aux agriculteurs, à quel moment est-ce qu'on parle de sécheresse?
Alors donc la sécheresse, donc il y a plusieurs types de sécheresse également, hein, parce que donc au départ d'une sécheresse, donc il y a un déficit de précipitation et sur une période assez longue, et donc si on parle de l'année 2021-2022, en fait le déficit de précipitation, donc il a commencé au mois de septembre, donc et depuis le mois de septembre, tous les mois qui se sont succédés en France, ils ont été déficitaires en termes de cumul de précipitation, donc à l'exception je crois du mois de décembre. C'est pour dire qu'on est vraiment sur un phénomène long, donc une sécheresse c'est un phénomène long, et puis ensuite donc ce déficit de précipitation, ben va se traduire dans le cycle hydrologique. En termes de déficit d'humidité des sols, donc ça intéresse énormément les agriculteurs, bien sûr, les éleveurs, parce que donc ben il y a pas d'eau dans le sol et donc si on n'est pas capable, soit il faut arroser, mais ça pose d'autres difficultés, soit donc ben, rapidement donc la végétation souffre. Et puis il y a aussi toute la question du remplissage des nappes, donc ça c'est lié aux précipitations d'hiver. Et voilà, donc l'hiver que l'on vient de connaître n'a pas connu suffisamment de précipitations. Il y a beaucoup de régions de France qui ont un début de sécheresse qu'on dit hydrologique à ce moment-là, parce que donc les nappes se sont pas suffisamment remplies. Et généralement, donc ça veut dire qu'il y a des, il risque d'avoir donc des restrictions sur l'usage de l'eau des nappes. Et aussi rapidement, donc ce déficit d'eau au niveau des nappes, ça se traduit au niveau des rivières également, parce que donc les rivières elles sont alimentées l'été par les nappes souvent, et donc
donc en résumé, Jean-Michel Soubérou, est-ce que là on peut parler de sécheresse ou pas encore ?
Si, on peut tout à fait parler de sécheresse. Donc effectivement, hein, donc il y a vraiment des indices très forts. Ensuite, donc la sécheresse, elle se traduit par des impacts. Et donc c'est cela qu'on va examiner plus dans la suite de l'émission.
Justement. Mais,
effectivement, donc on est bien sur une sécheresse et qui ressemble au moins à celle de 2017 et peut-être même à celle de 2011.
Elle est confirmée. Jean-Marie Fabre, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous êtes viticulteur au domaine de Fitou dans l'Aude.
Oui, bonsoir.
Cette sécheresse qui dure, hein, là on vient de le voir très très sérieusement avec le climatologue Jean-Michel Soubérou, qu'est-ce que ça pose comme problème? J'imagine qu'il y a toute une série de problèmes, c'est-à-dire que la pile de dossiers s'entasse sur votre bureau. Est-ce qu'on peut faire une gradation et commençons par le problème le plus grave?
Bon, d'abord, je pense qu'il faut raisonner à l'échelle des différents bassins viticoles et c'est comme ça, la climatologie est parfois différente d'un secteur à un autre. Et il y a des territoires français qui aujourd'hui subissent de plein fouet une sécheresse sévère, et d'autres qui sont un peu plus épargnés. Moi, je suis en Occitanie. 2021 était l'année d'une extrême sécheresse pour trois départements, le mien, le département de l'Aude, mais aussi l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Cette année, paradoxalement, nous sommes mieux lotis que l'ensemble des autres bassins viticoles français. Donc je crois qu'il faut aussi faire attention à la manière dont on appréhende les choses. En l'occurrence, la sécheresse cette année, elle touche vraiment le pourtour méditerranéen côté PACA. Elle touche effectivement l'ouest de la France, les vignobles, vous l'avez dit tout à l'heure, puisque dans le Jura, il y a aussi des vignobles et en Alsace, qui habituellement sont plus arrosés et qui ont connu cette année des saisons plutôt peu arrosées. Et donc d'ores et déjà, la sécheresse, ce sont finalement les conséquences de la réalité qui est la nôtre, celle de nos entreprises, qui vivent depuis maintenant plus d'une grosse décennie, je dirais, le changement climatique. Sous toutes ses formes d'ailleurs, hein, le gel, la grêle et aujourd'hui l'impact hydrique, alors avec parfois deux problématiques, des fois le trop d'eau, et nous le vivons parfois dans beaucoup de territoires, et pas que méditerranéen, cet excès d'eau qui en quelques heures peut avoir un cumul qui est parfois celui de plusieurs mois, et où il y a là aussi des dégâts et des incidents
parfois dévastatrices. Oui, c'est ça, ça peut détruire, voilà.
Exactement, et d'ailleurs avec des conséquences parfois malheureusement humaines ou matérielles, mais aussi avec des dégâts sur la biodiversité et sur nos cultures. Et puis, il y a l'effet inverse, c'est-à-dire cette sécheresse extrême qui, là, va impacter à la fois tant qualitativement pour notre production, le vignoble, que quantitativement la mise en œuvre de notre production sur 2022. Et un exemple, 2021, dans mon département, dans ma commune, donc à Fitou, domaine de la Rochelière, nous avons eu une pluviométrie, tout au long du cycle végétatif de moins de 200 mm. Donc, vous voyez, on est en dessous des pluviométries du désert. Et c'est là que les conséquences deviennent très dures, à la fois pour le maintien de la vie de la plante, alors que la vigne est une plante, une culture très résiliente. On en a jusque dans le Moyen-Orient, on en a en Israël, avec des conditions parfois de chaleur extrêmes.
C'est vrai.
Mais il faut un minimum de pluviométrie. La vigne évapore un petit peu plus de 400 mm d'eau par an. Donc, vous voyez, il faut que sur son cycle végétatif, d'une manière ou d'une autre, elle soit pas loin de cette pluviométrie qui lui permet ensuite d'avoir un cycle physiologique normal et d'assurer la qualité in fine de ce que nous, après, on peut transformer en produit d'émotion. Mais si elle n'a pas cette quantité d'eau minimale, à ce moment-là, c'est la résilience, c'est la survie de la plante et intrinsèquement la qualité de notre produit qui baisse.
Et ben voilà, un premier point de vue justement sur cette sécheresse de l'année 2022. On en reparle avec Jean-Marie Fabre, avec Claude Petit-Guyot et avec Jean-Michel Soubérou. Dans un instant, on verra comment est-ce que les vignerons que vous êtes, Jean-Marie Fabre, font justement avec les moyens du bord pour contrer ces phénomènes qui est naturel, en l'occurrence la climatologie. Et puis on ira également dans le Jura avec l'éleveur Claude Petit-Guyot, puisque ce ne sont pas que des conséquences sur ce qu'on mange nous, mais ce que mangent également les animaux. Et ça, c'est également un autre problème qu'on verra tout de suite.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Et en évoquant le thème de la sécheresse avec nos invités, et notamment le viticulteur Jean-Marie Fabre, on se disait avec nos équipes qu'on se prendrait bien un petit coup de rouge là pour ce soir. Hein. Ça l'a dit, c'est un peu l'heure de l'apéro et ça nous boosterait un peu. Vous nous avez donné, Jean-Marie Fabre, envie. On va dans un instant parler avec Claude Petit-Guyot parce qu'il y a d'autres problématiques. Jean-Michel Soubérou a l'amabilité de rester avec nous également, climatologue, scientifique, directeur adjoint à Météo France. Juste un dernier mot sur la viticulture, Jean-Marie Fabre, comment on fait pour contrer un phénomène naturel? On arrive à faire avec les moyens du bord. On voit ces images quand il fait extrêmement froid des vignes, quand on allume des feux pour réchauffer les plants de vignes. On fait comme on peut.
Je dirais d'abord, on tire les leçons de ce qu'on vit. Nous sommes au contact de la nature et on ne la dicte pas. C'est elle qui nous dicte aujourd'hui notre métier, finalement. Donc, je pense qu'il faut considérer que l'année exceptionnelle n'est plus aujourd'hui l'année avec aléa, mais ça sera l'année sans aléa. Et donc, il faut changer de paradigme et ne plus aujourd'hui juste mobiliser des moyens. Lorsque l'aléa est arrivé, le coup dur est là.
Faut
pour
les prévoir.
Essayer de sortir de l'ornière, il faut les anticiper. Et il faut, au contraire, investir massivement. Il faut un vrai plan Marshall qui permet d'investir massivement dans les outils de protection, dans les outils d'anticipation.
Mais ça, c'est avec le gouvernement, du coup.
Oui, bien sûr, avec le gouvernement, mais avec des pratiques culturelles, avec l'adoption de nouvelles pratiques, avec la capacité à améliorer la prise en compte de l'agroforesterie, de la maîtrise de l'humidité des sols, avec les couverts végétaux, la recherche, l'innovation. Donc, comment on anticipe comme ça? Il faut pas regarder en se disant, bien, on a subi un aléa et on verra bien si on en subit un dans plusieurs années. Non, l'aléa, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, il faut investir massivement dans l'adaptation à ces aléas. Et pour en revenir à la sécheresse qui nous occupe aujourd'hui, je crois que on a les moyens, si on est en capacité de bien prendre en compte cette problématique de l'eau, de pouvoir maîtriser sur des moments où les flux d'eau sont très importants, voire parfois colossaux, je le disais tout à l'heure,
oui.
Et moi en zone méditerranéenne, c'est parfois notre quotidien, eh bien il faut aujourd'hui mettre en œuvre les retenues collinaires, les bassins d'expansion de crues, les outils qui vont permettre d'écréter et donc de limiter les effets de dégâts de l'eau à certaines périodes, et ensuite réutiliser cette eau quand on en a besoin, parce que c'est la protection de notre vignoble, c'est le maintien de cette activité qui maintient aussi une biodiversité et qui protège dans les zones que je connais le mieux, c'est-à-dire les zones méditerranéennes. Chaque fois qu'un feu se déclenche, et Dieu sait qu'il y en a, et l'année dernière on l'a connu de manière massive dans le Var, la vigne, c'est le premier rempart à ces incendies, c'est le premier moyen de lutte qu'utilisent d'ailleurs les pompiers, mais c'est aussi le maintien d'une forme de vie et de biodiversité. Donc je crois qu'il faut anticiper ces changements climatiques, investir massivement dans les outils de protection, sans tabou. Parce qu'aujourd'hui, maintenir l'activité agricole, et pour nous, en tout cas viticole, c'est maintenir la seconde source dans l'économie de la balance commerciale française, c'est maintenir 700 000 emplois, c'est maintenir une performance, c'est maintenir une culture patrimoniale, mais c'est préserver la biodiversité, protéger aussi les populations.
Ouais.
Merci beaucoup de votre témoignage, Jean-Marie Fabre. On retourne dans le Jura avec Claude Petit-Guyot. Vous avez 94 hectares d'exploitation, 75 animaux, notamment de vaches allaitantes. Vous avez des céréales, le blé, l'orge, le soja, le maïs. Alors commençons peut-être justement par la partie, j'allais dire, céréalière. Cette sécheresse, quel impact pour vous ?
Oui, ben, bonjour les auditeurs, bonjour à vous. Au niveau de la sécheresse, c'est vrai que le changement climatique, on le subit en ce moment. Ça veut dire quelques années, on en est conscient. Pour ce qui est des cultures, surtout avec l'actualité qui est en ce moment au niveau de l'Ukraine, on nous demande de produire pour pouvoir honorer tous les contrats, pour pouvoir nourrir les habitants, quoi, le peuple. Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'agriculteur, on vit avec nos cultures, avec nos animaux, mais la première chose qu'on fait, c'est nourrir le peuple.
Ouais.
Faut surtout pas l'oublier, ça.
Ouais.
Et dû à la sécheresse, ça va être très compliqué cette année de pouvoir...
Quel ratio, quel pourcentage ? C'est-à-dire, combien vous avez en moins par rapport à des années, entre guillemets, normales, même si les années se suivent et ne se ressemblent pas ?
Comme cette année, par rapport à, on peut encore difficilement le dire, mais si ça continue, si les températures montent continuellement, tant qu'on n'a pas récolté, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que ce sera l'ordre de 10 à 15% en moins en rendement qu'on aura.
Combien on m'a dit ? Je ne vous ai pas entendu.
De 10 à 15%.
De 10 à 15% en moins ?
Oui, en moins.
Par rapport rien à une année qu'à normale. Cause de la sécheresse. Là, on n'entre pas dans les considérations géopolitiques. La guerre en Ukraine, on va y venir.
Oui, tout à fait. Tout ça parce que les sols, comme le disait le météorologue, comme disait le Jean-Marie, les sols sont pauvres, les nappes sont appauvries. Il n'y a pas eu un hiver humide et pluvieux comme on aurait souhaité l'avoir. Et on sera en manque d'eau rapidement. C'est déjà sûr.
Oui. Et alors, dans ce que disait Jean-Marie Fabre, il faut anticiper. Est-ce que vous avez appris justement à anticiper ? Est-ce que les moyens sont là ? Est-ce que à la fois la collectivité locale, est-ce que à la fois l'État central est là aussi pour vous aider ?
Là, ce qui se passe, c'est que nous, agriculteurs, on a déjà réagi un petit peu. On met des cultures qui supportent un peu plus la chaleur, du style des luzernes pour pouvoir nourrir nos animaux, et des variétés de céréales qui vont s'adapter au climat qui sera de plus en plus sec dans les années à venir. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est surtout, comme disait Jean-Marie, des retenues d'eau, des bassines pour pouvoir stocker l'eau quand il pleut énormément et pour pouvoir l'utiliser correctement les jours qu'on en a besoin. Surtout que ces retenues d'eau peuvent aussi servir en cas d'incendie pour les pompiers. Donc c'est bénéfique pour tout le monde, il ne faut pas penser qu'au monde agricole.
Alors il y a une inquiétude également sur le bétail, puisque comme vous le disiez, il faut nourrir le peuple, mais il faut aussi nourrir les animaux. Et là, est-ce que avec ce qui se passe en Ukraine, on dit souvent que l'Ukraine avec la Russie sont les deux greniers européens à tout point de vue, est-ce que là, il y a à la fois... sur les prix et sur la quantité des grands problèmes qui vous affectent ?
Là, actuellement, au niveau des animaux, ça devient compliqué parce que dans peu de temps, on va commencer à nourrir les animaux dans les pâtures parce que l'herbe diminue. Donc, on va diminuer nos stocks, nos futurs stocks hivernaux.
Ouais.
Et ce qui est sûr, c'est que les animaux, ils boivent beaucoup d'eau. Ça, faut pas le nier. Mais il ne faut pas non plus dire qu'ils boivent 15 000 litres d'eau. Ça, c'est faux. Il ne faut pas tout mélanger les quantités d'eau. Quelques associations, on ne va pas les citer.
Citons-les, allez-y.
Ouais, style L214, les associations comme ça. Quoi. En fait, l'animal, il boit beaucoup d'eau, mais il restitue de l'eau en urinant, en transpirant, comme nous, êtres humains. De toute façon, le bovin est très comparable avec un être humain. De là à dire qu'ils consomment beaucoup d'eau, c'est pas logique.
Bon, en tout cas, il y a un problème structurel avec la guerre en Ukraine. Il y a une inquiétude sur la production mondiale de blé qui fait s'envoler les prix. Ça aussi, c'est un problème qui vous concerne.
Ce qui est à craindre aujourd'hui, oui, c'est comme vous venez de le dire, quoi. Le problème, c'est que nos greniers ukrainiens et russes seront absents sur les marchés. les prix s'envolent. Mais nous, si on a une sécheresse, bon, l'année n'est pas finie, il peut pleuvoir, ouais. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Si on a une sécheresse aujourd'hui, on n'honorera pas les contrats qu'on nous demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ce moment, le blé et l'orge sont presque à maturité. Le grain est formé. C'est là que la plante a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir que le grain se nourrisse. Si le grain n'est pas nourri, ça sera un petit grain. Ben, on n'aura pas le blé pour faire du pain, on n'aura pas l'orge pour faire la bière, on manquera beaucoup de produits. Quoi.
Ouais, quelques chiffres, 45% de hausse du prix du blé depuis le 24 février, 30% du blé mondial est exporté par l'Ukraine et la Russie, 775 millions de tonnes, c'est la production mondiale de blé avec des pays comme l'Inde, par exemple, qui a interdit les exportations pour protéger la population de l'inflation, parce que les prix risquent d'augmenter. En Argentine, les producteurs ne profitent pas de l'aubaine des prix mondiaux. Et puis, alors, il y a des inondations dans le grenier canadien, ça, c'est l'autre grenier du monde, grenier céréalier. Et là aussi, il y a des problèmes. On a l'impression que tout le monde s'est ligué, enfin que le ciel s'est ligué, j'allais dire, pour stopper le...
Faut savoir aussi que il manque de l'huile dans les rayons des magasins, parce que le Canada, il y a eu les inondations. Ouais. L'Ukraine, ils sont en guerre. Et nous, on nous demande, mais il faut savoir que nos assolements sont faits depuis l'automne 2021. Donc l'assolement, c'est-à-dire, c'est quand on va mettre en place une culture sur une parcelle. À partir de là, on ne peut pas revenir en arrière. Une fois que la plante est implantée dans le sol, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, il faudra attendre 2023 pour revoir tout ça, pour pouvoir remettre soit du tournesol ou du colza en place au détriment d'une autre culture.
Claude Petit-Guyot, la filière agricole, on la voit, il y a eu des documentaires qui ont été faits sur ce monde, j'allais dire, d'oublié souvent. C'est ce que vous dites quand vous arrivez Porte de Versailles à Paris pour le Salon de l'agriculture. Est-ce que vous vous sentez oublié?
C'est surprenant parce que on sait que le public nous adore, le monde agricole, mais on sait qu'il y a des fois, on est critiqué. C'est-à-dire, on nous prend un peu pour des pollueurs, pour des gens qui font pas correctement leur travail, quoi. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que pourquoi les gens causent comme ça, critiquent. Des fois, il faudrait qu'ils viennent quelques jours sur nos exploitations pour pouvoir nous écouter, pour pouvoir
vivre
nous,
ce que vous vivez tous les jours.
Pour pouvoir travailler avec nous. Vivre tous les jours, moi j'ai la chance d'être agriculteur. Moi, j'ai pas peur de le dire. Mmh. On travaille avec du vivant, que ce soit avec les animaux ou les végétaux, c'est du vivant. D'un jour à l'autre, ça change complètement. On peut s'apercevoir que les animaux, un jour, ils sont en forme, ils sont en bonne santé comme l'être humain. Et le lendemain, ils ont soit de la grippe, soit un autre problème de santé. La plante, c'est pareil. Elle a besoin d'être protégée. Nous, quand on est malade, l'être humain, on va voir le docteur. On essaye de se soigner. La plante, elle a besoin qu'on la soigne avec des produits. Les produits qu'on utilise aujourd'hui, ils sont agréés par le ministère de l'Agriculture. Mais on ne peut pas mettre les quantités qu'on veut. On est obligé de respecter les quantités qu'on nous impose. Donc, moi, je pense qu'on ne pollue pas. On travaille au plus juste et on travaille en fonction de ce qu'on nous demande pour pouvoir produire et puis pouvoir nourrir le peuple.
Merci beaucoup de votre témoignage, Claude Petit-Guyot dans le Jura. Merci à Jean-Marie Fabre dans l'Aude. Merci beaucoup à Jean-Michel Soubérou qui nous a fait un grand point sur cette sécheresse qui nous frappe en ce moment. En France, météorologue à Roland-Garros. Non, puisque Roland-Garros, on va y aller dans un instant. Météorologue à Météo France, 19h42, Roland-Garros. Et dans un instant avec Cédric Pioline, à tout de suite.
Europe 1, service Pioline.
Service Pioline en direct de la Porte d'Auteuil à Roland-Garros. Et je salue Axel May, Cédric Pioline et Jean-François Pérez.
Bonjour mon cher Pierre.
Bonsoir messieurs, première journée de Roland-Garros. Et l'affiche du jour se déroule en ce moment, hein.
Oui, là, alors le studio d'Europe 1 se trouve au pied du cours central, du cours Philippe Châtrier, et c'est à l'intérieur qu'on va tout de suite retrouver Jean-François Pérez. Match du jour, c'est un jeune Espagnol, Alcaraz, et puis un Argentin, Landero.
Exactement, Alcaraz, c'est Axel, la sensation hein, de ces six premiers mois dans le tennis, plus rien ou presque ne lui résiste. Il a battu tout le monde depuis le début de l'année, 19 ans à peine, et puis pour son premier grand match, alors c'est son deuxième Roland-Garros, mais on va dire que l'année dernière, il n'était pas encore tout à fait prêt à faire face à un événement de ce type. Il n'avait pas le niveau qu'il a aujourd'hui, mais sur ce premier grand match que le voit jouer là sur le court Philippe Châtrier, les quelques, allez, on va dire 10-12 000 spectateurs qui ont fait le déplacement en cette fin de journée de dimanche, c'est franchement impressionnant. Alors certes, on est dans le premier set, là il y a deux jeux partout, il n'y a pas d'enseignement énorme à en tirer, mais ce qui marque surtout, c'est la sécheresse, c'est la dureté des frappes de ce garçon. Il prend la balle extrêmement tôt, il envoie des gifles de coups droits absolument monumentales, c'est sans effet, c'est direct, ça va extrêmement vite, et donc oui, je pense qu'on est en face d'un nouveau phénomène du tennis. Il faut juste qu'il ne se fasse pas rattraper par la pression, on va dire, parce que c'est sûr qu'on l'attend. Il fait partie des favoris désormais de Roland-Garros avec Djokovic, le tenant du titre avec Nadal. Il sera notre invité demain matin dans la matinale de Julien Pierce et sur Europe 1, puisqu'on sera là demain matin dès 6h30 aussi avec Dimitri Pavlenko, Europe 1, radio officielle de Roland-Garros. Et donc Alcaraz qui va peut-être dérouler face à ce lucky loser, comme on dit ici, à se repêcher du tableau Londero, qui a quand même fait 8e de finale hein, par le passé, donc méfiance quand même.
Merci, merci à Jean-François. Bonsoir à Cédric Pioline, le consultant d'Europe 1. Vous allez nous accompagner toute la quinzaine. Quand on dit, voilà, c'est un phénomène, Carlos Alcaraz, c'est pas exagéré, parce que souvent, il y a des phénomènes, mais après, ça fait pchit.
Ah non, là on est face à un vrai phénomène de précocité. C'est vrai qu'on avait, on avait eu pour habitude d'avoir des joueurs qui avaient une maturation un petit peu moins rapide, hein, même si on a eu quelques beaux exemples avec Ogier Alassim, avec Zverev, Tsitsipas. Mais lui, je sais pas, il dégage quelque chose de particulier. Et puis, comme vient de le dire Jean-François, il a mis tout le monde dans son sac là ces derniers mois, hein, en gagnant déjà deux Master 1000, c'est assez extraordinaire. Et puis en battant à Madrid Djokovic, Zverev et Nadal dans le même tournoi, ce qui avait jamais été fait. Donc je dirais qu'au-delà de toutes les qualités tennistiques que Jean-François a très bien décrites, c'est la maturité dont il fait preuve qui est assez extraordinaire et qui explique, je dirais, son ascension aussi rapide, même si je confirme et je partage, il vient à Roland-Garros avec beaucoup de pression parce que pour son deuxième tournoi ici, il est déjà dans les favoris. Donc voilà, les deux premiers tours, ce sont les tours de tous les dangers.
Oui, parce que Carlos Alcaraz, l'année dernière, il était venu un peu pour apprendre. Depuis l'année dernière, il est passé de la 100e place mondiale à la 6e place mondiale. Et la grosse différence avec les tournois qu'il a remportés là, cette saison, c'est que là, ça se joue au meilleur des 5-7. Ça aussi, ça peut changer quelque chose.
Ça peut changer quelque chose. À l'US Open l'année dernière, il avait fait un très beau parcours où il avait battu Tsitsipas. Donc, il a déjà un petit peu d'expérience hein, dans ce format 5-7. Mais il arrive avec beaucoup de confiance avec tous les matchs qu'il a gagnés. Et puis, d'une certaine manière, je dirais l'insouciance aussi de son jeune âge où il est tout frais, il a beaucoup d'envie, il a envie de montrer. Donc, et le format 5-7, effectivement, est différent. Mais je pense que ça pourrait être tout à fait à son avantage parce que justement, s'il a un moment de... ce qui serait humain, hein, un moment de nervosité où il y a un match qui s'embarque mal, eh bien, il aura tout le loisir et le temps de revenir, comme ça a été le cas pour le Canadien aujourd'hui, Aliassime.
Voilà, vous entendez Pierre de Villeneuve, déjà l'ambiance qu'il y a sur le central, et vous comprenez pourquoi Carlos Alcaraz, on voulait commencer avec lui ce
J'ai
premier
de vous rejoindre service Pioline. Dans le studio d'Europe 1, les Français du jour aujourd'hui.
Ah, il y en avait quatre, il y en a trois qui ont été sortis, Alice chez ces messieurs, Tan et Burel chez ces dames, et le français dont on va parler, c'est le seul qui s'est qualifié, Grégoire Barrère, au dépens du Canadien Daniel. Il lui a fallu 5-7. Je vous propose d'écouter au micro Europe 1 de Colin Abgral la première réaction de Grégoire Barrère, qui a eu le soutien évidemment du public.
Déjà rien que pour le match 5-7 à Roland Garros, ça fait plaisir sur ce terrain, le court 14 qui est vraiment super cool. Franchement, il y a 3 semaines, 1 mois, je me disais c'est impossible que je gagne un match en qualif, donc voilà, c'est clair que je suis surpris. Je savais que je pouvais gagner aujourd'hui. La seule interrogation, c'était les 5-7. Ça faisait longtemps, finalement, que j'en avais pas joué. Et voilà, il y avait un petit peu ça qui me trottait dans la tête avant le match. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sorti. Je l'ai bien géré. Et voilà, je suis très content de m'en être sorti aujourd'hui. Et voilà.
Grégoire Barrère, seul des quatre Français en lice aujourd'hui qui s'est qualifié. Bon, ça fait partie des bonnes surprises parce que Grégoire Barrère, comment vous le qualifieriez? C'est un nom que ceux qui connaissent le tennis, ils en entendent parler, mais c'est évidemment pas une des stars du tennis français.
Non, c'est pas le joueur le plus connu. C'est un joueur qui n'est plus tout jeune non plus, qui a été dans les 100 premiers, qui est ressorti, qui a souvent eu une wildcard. Ici à Roland-Garros, il avait un premier tour qui n'était pas facile, mais tout à fait à sa portée. Il a fait le match, il a fait l'effort pour se qualifier pour le deuxième tour. Donc je crois que c'est déjà très bien. Ouais, c'est un joueur qui, à mon avis, pourrait tout à fait avoir sa place régulièrement dans les 100 premiers. Il a les qualités pour. Donc je ne sais pas exactement ce qui cloche, mais la compétition est rude en tout cas.
Ouais, il a 28 ans, Grégoire Barrère, et son meilleur classement, ce fut 80e. Il est autour de la 200e place. Voilà pour ce Français du jour qui s'est donc qualifié pour le deuxième tour, Pierre.
La surprise, c'est laquelle ?
Alors la surprise, ça c'est une sacrée surprise. Ce matin dans le journal de Roland-Garros, on expliquait qu'il fallait suivre Once Jabeur, tunisienne de nationalité. C'est une star chez elle. Elle est en pleine bourre, hein, comme on dirait un petit peu vulgairement. Sixième mondiale, elle a remporté plusieurs tournois. Elle est en forme sur terre battue. Elle était présentée comme une des favorites et elle a été battue par Magda Linette, la polonaise. D'entrée de jeu, Once Jabeur. Avant de nous faire réagir, Cédric Pioline, je vous propose toujours au micro de Colin Abgral d'écouter la réaction de la Tunisienne.
En fait, c'était un match assez difficile. Moi, je trouve que vraiment elle méritait de gagner aujourd'hui. Et voilà, c'est un bon match pour réfléchir encore plus. Et peut-être, tu vois, c'était un bon coup pour revenir et mieux jouer peut-être dans les prochains tournois.
Voilà, Once Jabeur, Cédric Pioline. Ça, c'est une vraie surprise, hein, parce que on disait même quand on regardait le tableau, elle n'est pas dans la même partie de tableau que Iga Świątek, la numéro 1 mondiale, qui est la grande favorite. Et on disait, avec un peu de chance, elles vont se retrouver en finale. Et non, dès le premier tour.
Non, non, non. Mais j'ai vu une grande partie de ce match où la Tunisienne était un petit peu tendue. Elle a eu pratiquement l'occasion, hein, de finir en deux manches. Et puis finalement, elle a eu son adversaire qui a pris confiance au fur et à mesure de la rencontre. Je pense qu'elle est encore un petit peu juste, je dirais, pour supporter peut-être la pression justement de se retrouver dans les favorites pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Elle a gagné certes à Madrid là il y a pas longtemps, mais voilà, c'est une progression qui est tout à fait récente, donc elle a tout à fait les moyens de progresser, de pouvoir assumer, je dirais, cette pression. Et comme elle l'a dit, on a senti d'abord de la déception, hein, dans sa voix, mais aussi justement de la projection, de se dire voilà, il faut réfléchir pour progresser.
Voilà, sur Once Jabeur, cette joueuse qui était attendue, et on imagine la déception de l'autre côté de la Méditerranée, du côté de la Tunisie, Pierre.
Oui, surtout que je crois qu'elle avait été sortie par Iga Świątek justement à Rome. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que ça avait... Donc elle va en vouloir en polonais, c'est dommage. C'est la première journée à Roland-Garros, chers amis. Dites-nous quelles sont les nouveautés de l'année.
Alors déjà, c'est le grand retour du public, parce que l'année dernière, il y avait des jauges, il y avait en plus des couvre-feux le soir. Là, devant nous, devant le studio, on voit plein de personnes dans l'allée centrale qui se promènent avec les fameux chapeaux de Roland-Garros. Cédric Pioline, vous, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau particulièrement qui vous a interpellé? Alors, ils vont mettre en place dans les sessions de soirée des DJ. Sur les écrans, par exemple, lorsque il y a les réactions d'après-match, c'est traduit en direct pour que le public puisse comprendre ce qui est dit. Vous, Cédric, qu'est-ce qui vous a frappé?
Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, comme vous l'avez dit, le public, la vie qui revient, l'animation, beaucoup d'énergie, les gens qui sont contents. Quand on se balade dans les allées, on sent cette énergie. Il y a également sur le court central un grand changement, hein. C'est tout ce qui est les signalétiques là, des sponsors, à savoir les bâches de fond de court et latérales, c'est devenu du LED. Donc c'est une modernité, je dirais, qui s'est installée sur le court central. Donc voilà, un petit peu ce que je retrouve dans, en termes de nouveautés. Et j'ai vraiment hâte de voir quel est le dispositif mis en place pour les sessions de soirée qui démarreront à partir de demain.
Ouais, et puis, autre nouveauté aussi, c'est la fin des travaux. Hein. Il n'y a plus aucun. L'année dernière encore, il y avait des grues, il y avait des cours.
Ça va repartir.
Ça va repartir. Ben voilà, effectivement, mais bon.
C'est éternel ici.
Tout est beau, tout est propre. On va se projeter juste sur demain, parce que demain, il y a quand même... Iga Świątek, la polonaise, et puis sans doute les deux favoris si on met Carlos Alcaraz de côté.
Oui, c'est vrai que c'est une magnifique journée et c'est vrai que du fait d'avoir un tableau, en tout cas chez les hommes, qui est assez déséquilibré, hein, avec le haut du tableau qui est beaucoup plus fort en termes de nom, en tout cas, ça fait une magnifique journée pour ceux qui auront des billets demain. Ils vont se régaler et c'est normal, hein, c'est le début du tournoi, on a envie de voir comment l'histoire va s'écrire.
Voilà, Świątek opposé à Tsurenko, l'Ukrainienne. Demain, Nadal à Thompson, l'Australien, et Djokovic en session de soirée à Nishioka, le Japonais, Pierre.
Quel programme fabuleux, j'ai hâte de vous rejoindre. En tout cas, pour les Night Stations, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a plus de couvre-feu. Hein. On se faisait virer quand même l'année dernière.
Exactement.
On se souvient, ça n'arrivera plus.
Je me souviens d'avoir échangé des SMS avec vous. Justement.
Oui, voilà. Jusqu'à quelle heure on va pouvoir rester? Et bien, effectivement, à 23h. Un type arrivait au micro en disant voilà, maintenant ça finit, merci, bonsoir Rideau. Et d'ailleurs, on faisait rentrer les joueurs comme ça, on était sûr que le public partait. Bon, ça se prendra plus cette année. Merci à vous deux, merci Cédric Pioline, merci Axel V, merci Jean-François Pérez, Europe 1 Radio officielle du tennis. Et ça se poursuit avec Lionel Rousseau.
Absolument, Pierre, toujours en direct de Roland-Garros, juste en face du cours Châtrier, du Central. On va se retrouver d'ailleurs avec Cédric Pioline, avec Axel V, avec Jean-François Pérez, l'actualité du tennis, cette première journée à Roland-Garros, comment se présente cette quinzaine. On va parler de la Night Session aussi qui démarre demain, les matchs du soir avec une animation formidable à Roland-Garros. On en profite pleinement. Nos invités seront là, Gilles Moreton, le président de la Fédération Française de Tennis, Amélie Mauresmo, pour échanger sur cette quinzaine de Roland-Garros. Et puis on n'oublie pas le football, bien sûr, c'est notre fond de commerce avec Mbappé qui reste au Paris Saint-Germain. On y reviendra largement en direct avec nos experts, mais aussi le foot à l'étranger.
Merci Lionel, on suit ça à Roland-Garros avec vous. Bonne soirée à tous.